Deux chercheuses toulousaines ont été récemment récompensées par l'ARC, Isabelle Duché.
Grâce à la Fondation ARC pour la recherche sur le cancer, deux jeunes chercheuses en cancérologie ont pu être soutenues dans leurs travaux. Elles sont dans le studio de Radio Présence ce matin. Je m'adresse d'abord à Léa Goupil. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes doctorante au Centre de recherche en cancérologie de Toulouse et à vos côtés, Margot Régnier. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes interne en chirurgie gynécologique à l'Institut de pharmacologie et de biologie structurale à Toulouse aussi. Merci d'être là toutes les deux. Alors, vous avez reçu ce prix qui s'appelle le prix Kerner. Il récompense votre effort de vulgarisation scientifique afin que l'objet de vos recherches soit accessible à tous. Et évidemment, on compte sur vous ce matin pour bien nous expliquer en quoi ont consisté vos travaux. On va commencer par vous, Léa Goupil. Vous avez travaillé sur les leucémies aiguës myéloïdes. Et vous avez constaté que des cellules cancéreuses persistaient après le traitement. Ça, c'est quand même pas une bonne nouvelle. Je suppose que vous avez cherché à comprendre à quoi était due cette résistance.
Oui, c'est ça. Donc, tout d'abord, merci de m'avoir invité à parler de mes travaux. Alors, en effet, moi, j'ai travaillé sur les leucémies aiguës myéloïdes, qui représentent un sous-type de cancer du sang et de la moelle osseuse, pour ceux qui ne connaissent pas. Et dans ce cancer, en effet, les médecins sont confrontés à une forte résistance au traitement, avec des cellules qui persistent même après les différents traitements. Et mon but était de déterminer si l'alimentation, donc ce que l'on mange au quotidien, pouvait changer cela. Donc, comme c'est un sujet vaste, trop vaste pour la durée d'une thèse.
Parce que votre recherche a duré combien de temps ?
Alors, moi, 4 ans, grâce à la Fondation ARC qui m'a financé ma 4e année. Sinon, la plupart du temps, c'est 3 ans.
D'accord.
Donc, oui, c'est quand même un certain nombre d'années, mais finalement, ça passe vite quand on fait de la recherche.
Donc, il a fallu circonscrire un petit peu ce lien entre le traitement du cancer, ses cellules, et l'alimentation.
C'est ça. J'ai pas pu tout étudier, parce que l'alimentation, c'est large. Les traitements, selon les patients, etc., ils sont différents également. Donc, moi, je me suis concentrée sur un type de régime, qui s'appelle le régime cétogène, donc il y a un régime très riche en bon gras et surtout sans sucre.
Donc voilà. Ce que vous appelez le bon gras, c'est le gras des petits poissons, c'est pas celui qui est dans la chocolatine, hein.
C'est pas le McDo, c'est pas burger, voilà, ça va être en effet le bon gras, les oméga 3, toutes les huiles végétales, le poisson gras, tout ce type d'aliments sains et non transformés. Et voilà. Et je me suis après, du coup, concentrée sur aussi un traitement qui s'appelle le gilteritinib, qui est en fait ce qu'on appelle en clinique une thérapie ciblée. C'est en fait un traitement qui est donné pour les patients qui possèdent une mutation spécifique qui s'appelle FLT3. Et ça représente environ un tiers des patients quand même.
Ah oui, quand même.
Donc, voilà.
Ça peut être représentatif, effectivement.
C'est d'accord. Ça.
Et donc, vous avez mis ces patients sous ce régime cétogène ?
Alors, moi, je ne travaille pas sur les patients, du coup, parce que je suis plutôt sur le côté recherche. Donc, j'ai travaillé à la fois sur de l'in vitro, donc ce qu'on appelle les modèles de culture cellulaire. Donc, pour imager, c'est un petit peu travailler sur des petites boîtes où on y met des cellules. Donc, ça a pu être sur des cellules, des lignées cellulaires qu'on appelle, donc des cellules immortalisées finalement, ou des cellules de patients qu'on a pu récupérer grâce à l'hôpital qui est juste à côté, l'IUCT, l'Institut du cancer.
Et comment vous avez fait pour mettre en lien ces cellules que vous avez mis, donc on va dire dans des tubes à essai, oui. Hein, ça nous rappelle nos vieux souvenirs de SVT, et avec ce régime alimentaire particulier.
Alors justement, c'est un peu compliqué que donner à manger à une boîte entre guillemets, c'est un petit peu compliqué. C'est pour ça que dans ma thèse, j'ai quand même beaucoup utilisé ce qu'on appelle le modèle in vivo, donc l'animal, et j'ai plus particulièrement travaillé sur la souris. Un petit animal relativement facile à utiliser en laboratoire parce que voilà, l'alimentation fait intervenir quand même de nombreux organes dans le corps, de nombreuses interactions aussi entre les organes. Donc c'est beaucoup plus représentatif chez l'animal.
Mmh. Donc cette petite souris, vous lui avez inoculé des cellules cancéreuses.
Tout à fait.
Et puis vous l'avez mise à ce régime cétogène. Et quelles ont été les réactions?
Plutôt, bon, bien sûr, c'est un régime cétogène qui est adapté aux souris, c'est-à-dire que c'est reformulé par des industriels pour correspondre un petit peu à la composition de ce que serait un régime cétogène chez l'humain, mais sous forme un petit peu de pâte pour que les souris puissent le manger. Mais elles l'ont très bien accepté. Elles l'ont mangé et du coup après ça nous a permis de regarder aussi quelle était sans le traitement la réaction de l'organisme de la souris face à ce régime.
Et là effectivement vous avez vu il y a un avant un après régime cétogène.
Oui totalement, ça a bien changé ce qu'on appelle du coup le métabolisme, donc la façon dont l'organisme va transformer ce qu'on appelle les nutriments, donc ce qui est apporté par l'alimentation pour justement alimenter les cellules de l'organisme, y compris les cellules saines du coup.
D'accord, donc ça veut dire que votre recherche elle va servir à quoi maintenant?
Alors bien sûr, moi c'est un projet qui avait démarré en même temps que mon arrivée dans l'équipe, donc c'est le début, on va dire, d'un projet. Il va demander d'être continué, c'est-à-dire d'être testé avec d'autres types d'alimentation, d'autres traitements, d'autres mutations aussi, parce que bon voilà, la mutation FLT3 touche un tiers des patients, mais bon, il y a aussi les autres patients, c'est important. Et donc du coup, il y a encore de nombreuses années, je pense, de recherche à faire sur ce lien entre alimentation et traitement. Mais à terme, j'espère que ça pourra être utilisé à travers des essais cliniques pour renforcer finalement l'efficacité des traitements, parce que c'est vrai que quelque part, l'alimentation, c'est quelque chose de relativement sain. Justement, ce n'est pas un médicament, oui, c'est ça qui est chouette, c'est que on pourrait peut-être améliorer l'efficacité des traitements avec quelque chose qui est relativement sain pour le corps, et ça serait un réel avantage, je pense, pour les patients.
Oui. Donc à suivre, mais en tout cas la recherche va se poursuivre. Je me tourne maintenant vers, alors merci Léa Goupil pour toutes ces explications. Je me tourne maintenant vers vous, Margot Régnier. Vous avez reçu donc ce deuxième prix Kerner de la Fondation ARC. C'est le cancer du sein qui vous intéresse, et notamment le lien avec l'obésité, puisque c'est un fait déjà établi, l'obésité augmente le risque de rechute, de résistance au traitement et de décès au cancer, par cancer du sein. Qu'est-ce que vous avez cherché à comprendre à partir de là?
Donc en fait, la question qu'on s'est posée, donc c'est qu'est-ce qui va se passer en condition d'obésité et pourquoi on a une particulière agressivité des cancers du sein, et notamment ceux hormonodépendants qui sont les plus fréquents, c'est 70% globalement des cas de cancer du sein, et pourquoi on a cette particulière agressivité en situation d'obésité. Et donc moi j'ai cherché à étudier donc à la fois donc in vivo, c'est-à-dire à partir de tissus de biopsie avec des réels des fragments de biopsie de tumeurs qu'on a récupérés grâce à une collaboration avec l'Oncopole
sur des patients,
donc c'était vraiment de l'in vivo. Et en parallèle au laboratoire à l'IPBS de Toulouse, où j'ai pu mettre en culture des cellules graisseuses issues de patients, donc des vraies cellules graisseuses mammaires, avec des lignées de cellules de cancer du sein. Et pour voir un peu, étudier leurs échanges, comment, quel dialogue, on sait qu'il s'instaure un dialogue entre ces deux types de cellules. Et notamment, il existe un transfert des cellules graisseuses vers les cellules cancéreuses de graisse, on appelle ça les lipides. Et donc, on a constaté dans mon projet qu'il y avait un excès de transfert, en tout cas une amplification de ce dialogue avec plus de transfert de lipides en condition d'obésité, et que ça allait induire certaines modifications chez la cellule tumorale, et qu'elle allait peut-être augmenter son agressivité ou son potentiel à migrer, à aller devenir plus agressive.
Donc, et ça, vous avez pu mesurer le degré d'aggravation, si on peut dire, entre ces cellules graisseuses et puis le cancer du sein.
Donc nous, on a comparé à chaque fois, donc on avait deux conditions, soit une condition en situation d'obésité, soit une condition d'une patiente qui était de poids normal, et on a comparé à chaque fois les comportements, et effectivement on a vu que on retrouvait plus de lipides donc de graisse dans les cellules cancéreuses en condition d'obésité. Et dans mes premiers résultats, hein, le projet il continue, il n'y a pas de fin vraiment, là il continue à être fait et on a l'impression que ça augmente les possibilités de migration des cellules. Donc ça veut dire que ça pourrait expliquer qu'elles deviennent particulièrement agressives. Et qu'elles peuvent acquérir des, elles peuvent se déplacer et aller peut-être ailleurs. Donc c'est pour
sur
ça qu'on peut
organes,
retrouver,
alors.
Voilà, peut-être des atteintes, notamment des ganglions ou une atteinte de, ou des rechutes plus tard, plus fréquentes.
Mm-hmm. Donc vous dites que la recherche va poursuivre dans quelle mesure?
Eh bien moi, la Fondation ARC m'a financée durant mon année de Master 2, donc dans mon cursus médical, c'est ce qui m'a permis d'arrêter ma pratique clinique pendant un an pour me consacrer un an complètement à la recherche. Voilà, il y a d'autres des doctorants comme Léa qui avec qui j'ai travaillé, qui était on travaillait en collaboration et qui poursuivent ce projet. La suite, in fine, nous, ce qu'on souhaite, c'est découvrir des nouvelles cibles de traitement. Pour adapter les prises en charge des patientes qui sont en condition d'obésité, pour essayer d'adapter et d'améliorer leur prise en charge, essayer de justement de trouver quelque chose qui ferait que on stopperait l'agressivité, on limiterait le risque de rechute. Et donc il y a encore plein de choses à faire. On essaye de cibler certains des transporteurs ou des passeurs qui ferait que la cellule capte plus de graisse ou devient un peu plus agressive, certains mécanismes de prolifération, de croissance. Et donc tout ça, ça prend du temps. Et voilà, donc je fais entièrement confiance à l'équipe qui m'a accueillie pour découvrir tout ça dans les années à venir.
Est-ce que, puisque vous êtes là toutes les deux, c'est pas un hasard, est-ce que par exemple un régime cétogène qui serait appliqué à des patientes pourrait améliorer justement, puisque si c'est du bon gras, ça pourrait réduire justement ces cellules lipidiques.
Ce qui aggrave essentiellement, c'est l'état de surpoids et d'obésité. Oui. Donc effectivement, peut-être que si certains régimes étaient appliqués, ça permettrait de réduire l'incidence de l'obésité. Après, malheureusement, c'est pour l'instant pas encore. Les régimes alimentaires, c'est vrai que pour le moment, ça n'a pas encore été forcément...
C'est le début quand même des recherches.
Ah, c'est le début, oui, c'est ça.
Ouais, c'est un sujet quand même qui est relativement récent. Donc, il y a quelques études qui ont été faites sur divers cancers. Mais on n'a pas encore une image complète, globale de son intérêt. Voilà. Ça change beaucoup, en fait, entre les cancers. L'impact de l'alimentation... s'adapte, en fait, doit s'adapter à chaque situation et donc
mais en tout cas c'est une piste qui pourrait être suivie parce que ça peut éviter des médicaments et on sait que parfois les traitements sont quand même très lourds.
Oui. Donc c'est vrai que ça pourrait être une piste.
Oui, dans certains cas.
Nous on sait c'est aussi le fait que les cellules graisseuses en condition d'obésité sont dysfonctionnelle, c'est-à-dire qu'elle ne fonctionne pas de la même façon que chez une personne qui est de poids normal, on va dire. Donc ce serait plus nous sur réduire l'incidence, la fréquence de l'obésité ou du surpoids qui permettrait plus aussi de corriger ces...
Oui. D'accord. Donc ce prix Kerner que vous avez reçu, pour vous c'est quoi? C'est une récompense? C'est une petite enveloppe pour poursuivre votre recherche? Comment vous l'avez vécu cette réception, Margot?
Moi je pense que c'était un peu la consécration, le prix de la fin de ce travail sur lequel j'ai pu me pencher pendant toute mon année. Donc c'était une récompense et en même temps le fait de savoir que on a réussi un peu ce travail de vulgarisation qui est pas si simple. On a bénéficié d'une formation grâce à la Fondation ARC justement pour apprendre à vulgariser, faire de la médiation scientifique, à adapter nos discours. Moi, c'était déjà une chose que je faisais un petit peu en clinique pour expliquer aux patientes les diagnostics, les prises en charge. Mais finalement, sur certains sujets, c'est pas si simple. On l'apprend au fur et à mesure. Et c'était une chance d'avoir été formée, d'avoir eu ce prix qui est délivré par les journalistes, donc qui aussi sont habitués à délivrer justement des messages au plus grand nombre. Et non, c'est cette récompense, donc c'était une certaine fierté, c'est une reconnaissance aussi d'avoir été lauréat de ce prix pour la suite. Et c'est vrai que on avait un petit prix qui nous permettait d'être la suite pour assister à des congrès, par exemple le financement, moi pour assister à des congrès médicaux aussi. Voilà,
ouais, ça, donc, ça m'a aidé voilà, pour ça. Voilà une belle récompense en tout cas. Bravo hein, pour ces prix que vous avez reçus de la Fondation Arc, le prix Kerner. Et puis je vous remercie Margot Régnier et Léa Goupil d'être venues nous parler de votre de ce prix et de vos travaux de recherche scientifique pour lesquels vous avez été bonne pour les vulgariser ce matin. Merci beaucoup.
Merci. Merci beaucoup.